On se retrouve comme chaque soir pour le forum. Vous nous appelez au 01 43 36 04 06. 01 43 36 04 06. Et la question de ce soir porte sur le débat qui secoue actuellement Israël. Et quand je dis qui secoue, on a envie de dire le dernier débat qui secoue Israël, puisque effectivement c'est le dernier d'une longue série. On a d'ailleurs l'impression que tout est lié. Et c'est celui qui porte sur le financement des écoles qui sont hors contrat. Mais hors contrat d'une manière très nette, puisque ce sont des écoles où on n'enseigne ni les mathématiques, ni l'histoire, ni la géographie, ni l'anglais, et qui ont obtenu un doublement de leur budget la semaine dernière. Donc c'est une énorme polémique en Israël. Vous nous appelez pour donner votre avis sur cette question. Pensez-vous qu'on doit, qu'on peut, ou pas, financer des écoles où on n'apprend pas les mathématiques, parce que évidemment qu'on y apprend la Torah, on se doute bien, on connaît Israël, c'est pas les gens vont à l'école mais pour apprendre quelque chose, sauf que c'est pas les mathématiques, comme je viens de le dire. Nous sommes en ligne avec Denis Charbit, qui est professeur à l'Université ouverte d'Israël. Bonsoir Denis.
Bonsoir.
Denis Charbit, vous êtes professeur de sciences politiques. Je vous ai demandé d'introduire notre conversation et de nous dire, d'ouvrir nos propos de ce soir. D'abord déjà, qu'en pensez-vous? Et deuxièmement, est-ce que c'est la première fois, j'ai envie de dire, que ça va aussi loin? C'est-à-dire que, bon, on aide les écoles, évidemment, c'est des Israéliens, ne serait-ce que par exemple les soins, les transports, etc. Mais là, financer directement, est-ce que c'est la première fois ou non, ça avait déjà été fait?
Alors, effectivement, vous allez me permettre, Bernard, de planter le décor, ok, et de le faire dans une perspective comparatiste pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Comme dans tout système, et on va parler du système français, on a une école publique et une école privée, ok. C'est des choses qui existent dans tous les pays du monde, et y compris les pays démocratiques et sans doute également des pays non démocratiques. Il y a un système privé et un système public. La grande question qui s'est toujours posée depuis près d'un siècle, et pas seulement en Israël, c'est comment on finance le système privé. À quelle hauteur on finance le système privé, puisqu'il échappe aux contraintes, aux directives du système public. Et je commencerai tout de suite par dire ce qui distingue profondément le système public du système privé. C'est pas simplement les contenus, comme vous l'avez suggéré. C'est d'abord le fait, il faut jamais l'oublier, c'est qu'une école publique est tenue de recevoir tout le monde. Il n'y a pas de commission d'entrée dans une école publique. Bah, peut-être qu'il peut y avoir parfois un critère par les notes. Il faut avoir une certaine moyenne. Mais autrement, il n'y a pas de critère. On reçoit tout le monde. Okay, pour vous donner un exemple précis en Israël, un arabe dont les parents voudraient que leur fils étudie dans une école hébraïque, on ne peut pas lui dire non, non, tu n'as pas le droit. Parce que l'école publique, sa grande vertu, sa grande valeur, avec tous les risques et tous les problèmes et les conséquences que cela entretient, c'est qu'on reçoit tout le monde. Une école privée, par définition, et je ne rentre pas une boîte à bac, une boîte religieuse, école catholique, toute école privée, sa principale force, c'est qu'elle reçoit les élèves d'une manière sélective. C'est pour ça que, on a dit beaucoup, des écoles ashkénazes, orthodoxes, peuvent ne pas recevoir des enfants qui sont d'origine séparate. Parce que ce sont des écoles privées. À partir de ce principe-là, le fait que dans une école publique, on reçoit tout le monde, dans une école privée, on sélectionne, on a décidé, dans le monde entier, c'est pas seulement en Israël, on a décidé, on a estimé que pour que financer, que le public finance le privé, il fallait le soumettre à deux critères. Le premier, c'est celui de la formation des professeurs. C'est-à-dire, attention, vous pouvez enseigner ce que vous voulez, mais les profs seront formés par une institution nationale, okay, qui sait faire le boulot de former des gens pour en faire des profs, des instituteurs, des institutrices, etc. Le deuxième critère, et ça existe vraiment aussi en France, hein, c'est ce qu'on appelle les écoles sous contrat, c'est-à-dire quand bien même elles sont privées, et la formule, je vous dis à la française, et je vous dirai comment ça se passe en Israël, parce que c'est la même chose. En plus, le programme scolaire est identique au programme d'une école publique, en l'occurrence laïque, plus la subvention peut aller très loin.
Alors, c'est très important, Denis, que vous nous donniez tout ce cadre, toutes ces bases qui sont y compris juridiques et historiques. J'ai l'impression d'ailleurs que vous êtes en train de décrire un peu aussi la laïcité.
C'est-à-dire, oui, c'est vrai, d'une certaine manière, oui, c'est vrai.
Mais...
Et donc, dans ce... Oui, posez une question.
Non, non, continuez, finissez votre phrase, oui. Et après,
alors,
je vous
dirai
ce que
j'allais dire, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on avait en Israël comme situation? Parce que bien sûr qu'il y a effectivement... Alors, il y a une école publique laïque, il y a une école publique religieuse, ça c'est un peu particulier à Israël. Il y a une école publique de langue arabe, arabophone, qui est aussi une école publique. Et puis, il y a tout le reste. Et les restes, c'est aussi bien les écoles chrétiennes, par exemple, que les écoles orthodoxes. Okay, et là, il y a effectivement plusieurs niveaux d'aide. Et pour aller rapidement, pour ne pas monopoliser, puisque c'est un débat que vous allez faire avec vos auditeurs, je dirais ceci. Il était admis, acquis, depuis, par tous les ministères, de tous les gouvernements, de gauche, de droite, du centre, qu'une école privée, okay, dont le contenu ne reflète pas ce qu'on appelle le noyau, on appelle ça en hébreu la liba, et ce n'est pas seulement les mathématiques, c'est mathématiques, anglais, de l'histoire, de l'instruction civique. Voilà, les quatre matières principales qui étaient enseignées, qui doivent être enseignées. Eh bien, la règle en Israël était à ce jour, mais pas demain matin, pas à partir de demain matin, c'est qu'une école qui n'assure pas ces quatre matières fondamentales peut être subventionnée, à hauteur de 55%. Voilà. Et les autres, donc des écoles orthodoxes qui acceptent, qui enseignent, il faut bien comprendre, il y a des écoles orthodoxes dans lesquelles il y a de l'anglais, il y a des maths, etc., à un niveau élémentaire, mais ça existe, eux peuvent être financés à 75%. Et ce que Netanyahou a promis, et c'est la promesse qu'il va donc assurer, c'est que désormais, tout le monde est à 100%. Voilà. Mais attention, quand je dis tout le monde, non, pas les écoles chrétiennes, par exemple, bien entendu, mais les écoles, encore que les écoles chrétiennes, elles enseignent les matières fondamentales, hein, outre les matières religieuses. Mais la grande décision, qui a des implications sociales très importantes, c'est qu'on dit aujourd'hui, en gros, c'est ça le message qui est adressé, c'est pour ça que ça fait polémique, c'est ça qui fait polémique, c'est pas de s'en prendre aux orthodoxes ou pas, c'est de dire désormais, si vous êtes un orthodoxe, vous avez le choix entre plusieurs écoles, entre une école publique, entre une école privée dans laquelle on enseigne ces matières-là, et vous avez également des écoles dans lesquelles on ne les enseigne pas. Eh bien, aujourd'hui, le gouvernement israélien s'apprête à dire à toute cette population orthodoxe, désormais, vous êtes financés de la même manière.
Non, c'est pas
là,
ça.
Et là, il y a une vraie polémique, parce ouais. que certains disent, non, il faut quand même encourager. Alors, on peut passer de 55 à 60%, ça, c'est pas un problème. Mais ce qui est ici fixé, et je termine là-dessus, c'est de dire que toutes les écoles, indépendamment du nombre de matières qu'ils étudieront et du niveau de ces matières élémentaires pour être sur le marché du travail, eh bien, désormais, on ne fait pas de distinction, tout le monde est à la même enseigne. Et un État a le droit, certains pensent même qu'il a le devoir d'encourager des écoles, parce qu'on va enseigner les mathématiques, parce qu'on va enseigner la physique, la chimie, les langues, etc. Et bien là, on prend une décision très démocratique sur ça, à bien des égards. Tout le monde à la même échelle, mais cela veut dire qu'on condamne, voilà la position en tout cas d'une partie de ceux qui s'opposent à cette décision, on dit on condamne ce monde orthodoxe à ne plus être stimulé par le fait d'apprendre ces matières élémentaires qui sont indispensables et qui nous obligent, il faut bien comprendre le résultat. C'est pas simplement qu'ils vont étudier ensuite en yeshiva, ça c'est pas un problème. Le problème ouais. c'est que quand ils décident d'aller travailler, et il y en a de plus en plus, c'est pas un très grand nombre, mais il y en a de plus en plus parmi les hommes qui décident d'aller travailler. Vous imaginez quand ils arrivent sans aucun bagage, qu'est-ce que ça demande? Alors on va leur faire un an. On va le faire deux ans. Je le fais à l'université, c'est ce qu'on fait. On leur fait une année de préparation. Vous pensez qu'en un an, on peut combler tout ce qu'on a appris pendant 12 ans, nous qui avons été, de ce point de vue-là, privilégiés? Voilà le débat en Israël aujourd'hui.
Très bien. Eh bien, vous l'avez parfaitement bien introduit. Malheureusement, bon, j'aurais voulu vous relancer sur un autre sujet, mais je préfère laisser la parole à ceux qui, maintenant, vont être... à l'antenne, au 01 43 36 04 06. Denis Charbit, vous nous parlez en direct de Tel Aviv. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université ouverte d'Israël, professeur de sciences politiques. Donc en plus, c'est vraiment votre domaine. Merci à vous. Merci. Bonsoir.
Au revoir.
On se retrouve dans un instant. Vous nous appelez au 01 43 36 04 06. Et on se retrouve pour la deuxième partie de ce forum. Donc, que pensez-vous de la décision israélienne, qui vient d'être d'ailleurs très bien présentée par le professeur Denis Charbit, de cette décision du gouvernement israélien de financer à 100% les écoles qui n'enseignent ni les mathématiques, ni l'histoire géo, ni l'anglais, c'est-à-dire ce qu'on appelle les matières profanes. Et vous nous appelez au 01 43 36 04 06. Samuel Lévy est en ligne avec nous. Bonsoir Samuel.
Bonsoir Bernard Aboisse.
Bonsoir, vous êtes un proche collaborateur de Yossi Taïeb, qui est un député du Chasse. Je vous ai demandé de donner à vous aussi votre point de vue. Et d'ailleurs, je vais vous faire plaisir, on a entendu Yossi Taïeb hier soir sur Radio Shalom, puisqu'il a affirmé que les yeshivot, les écoles talmudiques, donc celles dont on parle aujourd'hui, puisqu'évidemment, on est en Israël, donc on sait très bien que si des gens n'étudient pas les mathématiques, c'est parce qu'ils étudient la Torah. Et il a dit, c'est la Sayeret Matkal de l'armée, nos écoles, parce que c'est nous qui faisons gagner les guerres, puisque nous, on étudie la Torah. Yossi Taïeb, en dehors des slogans, est-ce que vous pensez, vous, que on peut... je vais être un peu tokef, comme on dit en hébreu. Pensez décemment qu'on peut avoir un pays comme ça, où les gens n'étudient pas les mathématiques, n'étudient pas... Comment on peut faire avec des gens qui après se retrouvent sur le marché du travail? Quel état d'Israël vous nous proposez? Qu'est-ce que vous répondez à cette question?
Tout simplement, vous savez, aujourd'hui, Bernard Aboisse, il y a beaucoup de chiffres qui sont avancés et qui ne sont pas justes. Aujourd'hui, j'ai l'impression que d'une partie de la tikhshoret, des médias et une partie des partis politiques, aujourd'hui, comme on n'arrive pas à faire avancer les mesures, comme ils n'ont pas d'idée pour faire avancer leurs mesures et pour avoir des voix, la chose la plus simple, c'est en fait d'attiser la haine. Tout simplement, vous nous parlez du marché du travail, mais aujourd'hui, moi, je vais vous rappeler quelques chiffres. Aujourd'hui, le marché du travail, donc on parle forcément de la classe d'âge qui travaille. Donc, le marché du travail chez les femmes, il est de 74%. Il est chez les femmes orthodoxes qui travaillent, il est exactement équivalent à la part des femmes qui travaillent dans le secteur laïque. Et si on parle des hommes, là, les hommes sont à 83% dans le secteur laïque et dans le secteur général, on va dire, et à 51-52% dans le monde orthodoxe. Et donc là aussi, on voit quoi? On voit qu'il y a simplement une différence de 30%. Peut-être vous pouvez considérer que c'est beaucoup, mais
de 50-83%, ça fait une différence.
Non, mais que chez les hommes, donc on a déjà résolu. Encore une fois, on peut discuter de ça, mais aujourd'hui, on ne va quand même pas refuser à des gens en Israël de pouvoir étudier la Torah. Je ne sais pas. Et puis j'aimerais réfléchir un petit peu plus loin. Quelle est la différence entre une personne qui étudie la Torah, qui se penche toute la journée qui se casse la tête
sur une Gemara,
sur une Gemara pour pouvoir expliquer ça, et qui partage aussi son savoir avec par exemple un étudiant qui va étudier.
Alors il y a trois choses différentes, Samuel.
Qui va étudier par exemple la philosophie grecque dans une université. Tout simplement, vous savez, aujourd'hui, parce que ça n'a pas le terme d'université, parce que ça a le terme de collège, alors on permet de se pointer ces gens-là du doigt. Alors, je vais vous dire, je suis désolé, mais encore une fois, on est en Israël, on va quand même pas être les juifs des juifs et nous reprocher de vouloir un petit peu étudier la Torah. Non. Il n'y a que 80 000 étudiants à temps plein dans les colonies en Israël. Je ne pense pas qu'on peut leur reprocher que tous les problèmes économiques et tous les problèmes sécuritaires et tous les problèmes d'antisémitisme, ce sont eux.
Alors, bien sûr que non. Deuxièmement, il ne s'agit certainement pas de stigmatiser ceux qui étudient la Torah, et d'ailleurs certainement pas sur cette antenne et encore moins à mon micro. Donc ça, c'est un postulat qui est important de souligner. Mais avançons, une fois dit cette règle de base. Vous avez de très nombreuses écoles en France où on étudie le Kodesh et où on comprend bien que les enfants ont besoin aussi d'apprendre un métier. C'est pas vous faire injure que de vous dire une chose pareille.
Je suis d'accord avec vous, c'est la première chose.
Quel pays on veut, c'est ça que je vous posais comme question. C'est pas, on va au-delà, c'est pas, même Ben Gourion, il a signé avec le Chazon Ish, il a dit il faut 100 000, on va mettre 100 000 gamins jeunes d'ailleurs, c'est pas des gamins, dans les yeshivot. Tout le monde est sur cette idée là je suis pas sûr qu'il y ait... Même Yair Lapid, je suis pas sûr, vous savez, si vous allez lui demander combien vous mettez de gens à yeshivot, il va vous donner un chiffre qui sera pas un ou deux. Non, la question c'est quel pays on veut. Si on accepte qu'une école où on n'apprend pas à compter va être financé à 100%, il est là le point,
alors c'est à 100% faux,
par l'État. Alors, qu'on donne un peu une subvention, je veux bien qu'on paye la cantine.
Bernard Aboisse, c'est regardez, ce que vous venez de dire, c'est faux, je suis désolé. Encore une fois, si on prend la Rechette Bene Yosef, qui sont les écoles qui ont été montées par Chasse, qui ne sont pas des écoles privées, qui sont des écoles Mamelarti, où il y a des inspecteurs de l'éducation nationale israélienne qui surveillent ça, où le programme est suivi à la lettre, où il y a 100% de limoud et libad d'études profanes, il y a 100% dans les écoles montées par Chasse, dans les écoles de la Rechette Bene Yosef, il y a 100% d'études profanes. Et là encore, l'argent que reçoit la Rechette Bene Yosef par rapport à ce qui à ce qu'elle devrait recevoir si elle était une école laïque, et bien en deçà. Donc tout simplement, ça vient rééquilibrer. Pareil, je peux vous prendre aussi le salaire des professeurs dans le Chinour Atmaï, qui est là aussi une Rechette de la même chana, même l'artiste, c'est-à-dire qui appartient aussi à l'État. Le salaire des professeurs est quasiment divisé par deux dans certains cas. Est-ce que vous trouvez que c'est normal?
Discrimination. Là encore, c'est de la discrimination.
C'est de la discrimination.
Si à travail égal on touche moins, c'est de la discrimination.
Exactement. Et ben tout simplement, on vient réparer cela. Là encore, quand on parle des écoles orthodoxes.
Non, Samuel. Il se trouve qu'une nouvelle fois, vous répondez pas à ma question.
Non, je réponds à votre question.
La question, c'est pas rien pour va prendre. Allez, on va balancer. Ça fera de mal à personne d'ailleurs, parce que voilà, un toldot Aaron. Voilà, il est toldot Aaron à Jérusalem. Il habite à Meacharim, ou il habite à Bet Shemesh, vous voulez. Il ne veut pas apprendre le profane. Est-ce que l'État doit lui dire, bon, bah ok, on finance à 100% tes finances, ou est-ce que c'est comme à Bet Hana en France? Samuel, vous êtes français, j'entends votre accent, vous êtes parisien. Comme à Bet Hana, c'est comme à Aleph, c'est comme dans toutes ces écoles où on étudie la Torah métier.
Je vous montre que dans les écoles séparates, c'est 100%. Dans les écoles ashkénazes, quand vous dites qu'il n'y a pas de mathématiques, là encore, c'est faux. Il y a des mathématiques. Dans la majorité des cas, à 75%, le programme des matières profanes est suivi. Dans une petite minorité minorité des cas, c'est à 50%. Donc, de dire qu'il y a zéro, c'est faux, déjà, premièrement.
Et là, c'est pas le sujet du forum.
Chez les filles, là aussi, elles étudient les matières profanes exactement comme dans les lycées laïcs. Encore une fois, je n'ai pas de problème avec le monde du travail. Moi-même, je travaille, mon épouse travaille. On n'a aucun problème avec ça. Je veux juste dire qu'aujourd'hui, on peut donner la possibilité à un jeune qui a envie d'aller étudier à la Torah et puis après de sortir sur le marché du travail, lui donner cette possibilité d'étudier dans une yeshiva. Il y a de nombreuses parcelles qui existent, de nombreux chemins qui existent aujourd'hui pour pouvoir intégrer le monde orthodoxe aux universités et pouvoir leur permettre d'avoir un travail qui est bien payé. C'est des choses, c'est des programmes qui sont encore plus à développer. Ce n'est pas simplement en mettant des sanctions, ce n'est pas simplement en mettant des quotas qu'on arrivera à faire cela. C'est au contraire, il faut encourager, et vous verrez que c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire pour le public orthodoxe. Aujourd'hui, c'est de l'encourager. Je vous montre encore une fois que les femmes travaillent, que les hommes travaillent de plus en plus, qu'on se rend de plus en plus à l'armée.
Non, mais ça, je suis sûr que c'est vrai. Ça, c'est sûr que c'est vrai. Je vais même vous dire mieux. Vous voulez savoir quelque chose, Samuel? Vous allez voir que je connais un tout petit peu. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a de très nombreuses familles, ils ont du mal à marier l'école elle-même, les plus jeunes. Parce que les filles veulent des gens qui travaillent. Je vous le dis.
Exactement. Bien sûr.
Elles veulent pouvoir
vous avez tout à fait raison.
Acheter des choses aux enfants, machin, elles veulent qu'ils travaillent.
Aujourd'hui, les filles qui étudient les matières comme, par exemple, programmatrice, ou après elles sont embauchées dans des sociétés de high-tech et qui gagnent très bien leur vie. Aujourd'hui, vous savez, moi j'habite à Bnei Brak, j'ai 4 filles, donc je connais un petit peu le sujet. Aujourd'hui, c'est ce qu'on enseigne dans les séminaires à Bnei Brak. On enseigne, toutes les filles demandent à enseigner justement la programmation, parce qu'elles savent que c'est des métiers qui sont rémunérateurs, malgré que là aussi, il y a aussi de la discrimination, parce que souvent, ces personnes-là du public orthodoxe, quand elles sont embauchées à salaire bien moindre que les filles qui
ça,
sont
dans
le secteur laïque.
Samuel Lévy.
Malheureusement, c'est la vérité.
Ben, c'est pas normal. Et je pense que c'est vrai. On pourrait dire la même chose aussi quand quelqu'un sur son CV, il y a marqué Sderot, ou Ashdod, ou Netivot. Lui aussi.
Il y a Israël d'en haut et Israël d'en bas.
Oui, c'est vrai. Et c'est pas normal. Samuel Lévy, et s'il y a marqué Oumel Fahem aussi. Je rappelle que vous êtes donc un proche collaborateur du député du Chasse, Yossi Taïeb. C'était un plaisir de vous avoir en ligne avec nous. Mais d'ailleurs, ça va vous donner l'occasion de vous dire Chak Sameach. Bonsoir à vous, Samuel.
Exactement, Chak Sameach. Coltou, à bientôt.
Bonsoir, Léo est en ligne avec nous. Bonsoir, Léo.
Allô?
Oui, bonsoir Léo. Alors, votre point de vue sur cette question, financer des écoles avec l'argent de l'État, évidemment, où on n'enseigne pas les mathématiques.
Bon, Bernard, d'abord, je vous remercie de m'avoir donné la parole.
Tout à fait.
Une première chose, parler après Denis Charbit, il faut être inconscient, hein, il est brillant, c'est un ami. Si j'avais su que je parlais après lui, j'aurais dit Bernard une autre fois. Hein. un tout petit point, une incise après ce que je viens d'entendre de votre intervenant ça précédent. J'ai pas bien compris à quoi ça rime cette différence entre femme et homme. Personnellement, je comprends pas. Hein. Femme, homme, pour moi, il y a qu'un être humain qui compte, et je vois pas pourquoi il se justifie en disant « Ouais, les femmes, 81%, les hommes, 51%, donc le problème n'est pas le même. Bon. »
Bah, alors, franchement, on fait pareil en France. Tout le monde fait ça. Dans les statistiques, on dit « Vous voyez bien que les femmes touchent moins que les hommes. » Tout le monde dit ça.
Oui. Mais d'abord, je savais que j'étais d'accord. Et deuxièmement, c'est pas parce qu'il y a des choses qui sont pas bien qu'on doit faire la même chose pas bien ailleurs. Bon. Alors, je ne vais pas m'intéresser aux problèmes économiques ou aux problèmes sociaux, mais je vais m'intéresser aux jeunes qui sont dans des yeshivot où on n'apprend pas un certain nombre de choses. Et je vais emprunter une phrase à Victor Hugo qui disait « Ouvrir une école, c'est fermer une prison ». Shakespeare, Henri VI, disait « Tu es un traître qui a corrompu la jeunesse du royaume en érigeant des écoles de grammaire ». Je suis très très énervé quand je vois des enfants qu'on massacre, et j'emploie ce mot, on leur vole leur avenir en leur empêchant d'accéder à l'instruction, en leur empêchant d'accéder au savoir, au libre arbitre, à tout ce qui fait la beauté de la vie. Ça les amène quoi? Ça les amène, comme disait Stefan Zweig, s'ils n'ont pas les outils pour réfléchir, c'est les cancans plutôt que le savoir. Alors maintenant, je vais me baser sur un épisode juif. Et croyez-moi, moi je suis un enfant, j'ai fait 3 écoles, la laïque, la juive, j'étais à Maïmo pendant 4-5 ans, et une école protestante. Et à l'heure où je vous parle, mon petit-fils Simon Haddad, ben, il est dans une école juive Marianne Picard, où ma fille Laura enseigne d'ailleurs. Donc on ne peut pas me soupçonner d'être contre les écoles où on donne un enseignement religieux. Mais si mes souvenirs sont bons, et Bernard, vous avez une connaissance juive beaucoup plus forte que moi, lorsque Moïse prépare un plan pour entrer en Israël, toutes les tribus doivent être à la tâche. Et il y en a 2 ou 2,5 qui disent « Non, nous on veut rester ici, la terre est meilleure ». Aujourd'hui, la seule guerre qui vaille et qu'on mène, c'est la guerre contre l'ignorance. C'est la guerre pour l'instruction. Alors, autoriser des enfants à ne pas apprendre, mais c'est en faire des exilés à vie. Mais c'est insupportable. Vous volez la jeunesse de ces enfants. C'est criminel. Je parle même pas des problèmes.
Alors, ceux qui étudient vous diront que l'étude de la Gemara, ils en font à fond, permet d'aiguiser un esprit critique hors du commun.
Un esprit hors du critique dans un
esprit champ. Par exemple, moi je connais un jeune qui était dans une grande yeshiva à Paris, dans la grande yeshiva de Paris, et ensuite il a fait des études pour être avocat, ça lui a pris, je vous dis, je vous mens pas, hein, ça lui a pris un an pour attraper. Après, il a présenté le concours et
alors,
il sort de la rue
Bernard,
pavée. Pour lui,
faire
du droit, ça lui a pris Bernard, un an pour attraper les autres.
Oui, Bernard, il y a des exceptions.
Non, il fait de la Gemara. La Gemara, ça aiguise.
Oui, je sais bien. J'ai fait de la Gemara pendant des années.
C'est pour ça que vous avez un esprit aiguisé.
Et aujourd'hui, pour mon plaisir, je relis régulièrement Steinsaltz dans la Gemara traduite. Mais je ne peux pas me baser là-dessus. Et ensuite, ça vous donne un esprit aiguisé, mais avec certaines œillères. Et puis ensuite, c'est vous priver des beautés du monde. Et je vais vous dire...
On doit conclure, je suis en train de me faire engueuler dans mon casque. On doit conclure, ne croyez pas que je vais vous censurer.
Oui, je vais très vite. Bernard, quand mon papa est décédé, j'ai fait un kaddish civil pendant 4 ans. J'ai donné des cours de rattrapage à des gosses qui étaient dans des écoles aux Aratora.
Je dois conclure, là.
Ok.
Alors
eh ben, je peux vous dire une chose. J'avais envie de pleurer quand je vois des enfants qui sont privés de ce qu'est la beauté de la vie. Okay. Et j'ai pas dit qu'il faut pas donner d'enseignement
religieux.
Non,
j'ai bien compris. Léo, je suis obligé de conclure. Vous avez d'ailleurs très bien illustré votre propos.
Et comme on dit Bernard, lui il a dit rack sa mère, moi je vous dis aguitiante.
Ah, vous êtes gentil, magnifique, mais moi je vous dis rack sa mère, tiens. Merci à vous Léo, merci Léo Keller d'avoir, d'être intervenu dans ce forum.